ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Madame Carolina Letao. Merci Carolina d'être venue. Vous êtes une des animatrices de la fraternité des personnes malades et handicapées. Alors, handicapées, il n'y a pas deux, mais les personnes, hommes et femmes, hein, handicapées. Et on a mis sur le site la photo de votre réunion parce que vous venez d'une rencontre où vous étiez avec les animateurs en charge de coordonner. Et aujourd'hui, vous êtes venu aussi avec Arnaud, qui est président de cette association.
Tout à fait. Donc moi, je fais partie du bureau. La photo que vous avez, en fait, c'est le bureau de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Pardon, je ne voulais pas préciser. Et en fait, la fraternité est plus large que le bureau, mais nous, on fait partie du bureau avec Arnaud.
Voilà. Et en même temps, vous avez beaucoup, beaucoup d'activités dans le domaine du handicap.
Alors, je suis aussi au bureau de la pastorale des personnes handicapées, qui là est un service diocésain, donc sous la direction de l'évêque, qui est inclus au sein de la pastorale santé plus largement. Et je suis aussi très investie avec l'OCH, qui est l'Office chrétien des personnes handicapées, pour lesquels j'essaie d'être une ambassadrice, enfin en tout cas d'en parler, de faire connaître un peu leurs événements.
Mais vous réussissez très bien.
J'essaie.
Et en plus, vous avez ici, aujourd'hui, à annoncer qu'il y aura une rencontre sur Toulouse. Et puis on verra aussi en deux mots ce qui s'est passé le 3 décembre, puisque le pape François a, comme chaque année, organisé la journée internationale qui est consacrée aux personnes qui sont malades et handicapées.
Voilà, on a une journée internationale qui se fait qui est internationale, donc qui concerne pas simplement l'Église. Mais cette année, je ne sais pas si chaque année ça se fait, mais cette année, le pape François nous a écrit une lettre qui nous est destinée personnellement aux personnes handicapées et dont je vous ai extrait quelques passages qui m'ont semblé importants. Et à Toulouse, on a organisé, grâce à nos responsables de la PPH, Jean-Luc et Marie-Sylvine, une messe à cette intention avec une participation particulière des personnes malades et handicapées. On espère que l'année prochaine, on pourra réorganiser quelque chose en ce sens.
Alors, votre formation professionnelle, vos études vous aident beaucoup dans votre mission spirituelle. Mais il faut dire, si nous étions sur KTO, on verrait que effectivement vous êtes venu en fauteuil roulant, ce qui n'est pas toujours évident quand il faut monter au premier étage du studio de Radio Présence, parce que c'est un escalier monumental qui est magnifique, mais qui pose des petits problèmes. Alors j'ai déjà demandé à Arnaud, le directeur, et quand est-ce qu'il y aura un ascenseur? C'est toutes les difficultés de vous rencontrer tous les jours dans la ville. Et vous êtes accompagné par Nadège aujourd'hui, parce que vous êtes tout un réseau de solidarité. Vous donnez et vous recevez.
Oui, alors c'est pas une solidarité, puisque ce sont des aides à domicile, dont c'est le métier. Cependant, ce sont des personnes formidables que j'aime beaucoup et qui font un travail remarquable, puisqu'ils nous permettent, dans cette association qui est Carpe Diem Premium, qui nous permettent d'avoir une vie au-delà du strict nécessaire, manger, boire, dormir, se coucher, se laver. Avec eux, on peut aussi avoir des déplacements, des activités. Ils nous accompagnent pour ces activités. Après, je sais m'entourer. Enfin, j'essaie de savoir m'entourer. Et donc, je suis venue avec mes amis, donc avec Alain, qui est notre diacre de la fraternité, qui nous a aidé à monter les escaliers, avec Arnaud, qui est notre président. Et j'ai aussi appelé un autre ami, mais finalement, on était assez nombreux. Donc voilà. Effectivement, c'est un combat à l'accessibilité. Et il faut batailler parce que dans le diocèse, on a gagné un petit combat de cet ordre-là. Ça a mis 10 ans, mais la salle Molini étant enfin accessible. On a un ascenseur et ceux qui ont bataillé pour ça savent à quel point ça a été dur. Et même moi, je ne les ai pas soutenus à l'époque parce que je ne pensais pas que c'était possible. Donc comme quoi, il faut persévérer.
Ma foi, j'y crois. C'est aussi le message que dit le pape François quand il évoque Jean au chapitre 9 à certaines des personnes qui me font la gentillesse de venir pour témoigner de leur confiance, de leur foi dans la vie, qu'ils soient croyants ou pas. Je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de la Bible. Mais vous, la Bible, elle vous nourrit tous les jours. Et si je vous dis Jean, chapitre 9, verset 17, ben vous savez bien que c'est l'aveugle sur le chemin, l'aveugle de naissance. Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Et il devient prophète.
Ouais, et c'est merveilleux. Parce que Jésus a la délicatesse de lui demander ce qu'il veut et de ne pas supposer qu'il sait ce qu'il veut, en fait. Alors que, en fait, dans la vie comme ça, souvent, on ne demande pas aux personnes en situation de handicap ce qu'elles veulent, puisqu'on suppose que forcément, ce qu'elles veulent, c'est être guéries de leur handicap. Or, moi, je crois que ce n'est pas le plus gros handicap que nous ayons. Pour ma part, ma grande difficulté, ce n'est pas de ne pas marcher, ce n'est pas d'être petite de taille, puisque je mesure à peine 1 mètre.
Ni d'être aveugle.
Ni d'être aveugle, bon ça commence à m'handicaper quand même, et d'être malentendante aussi, mais c'est parce que c'est récent, donc c'est quelque chose dont il faut que je m'adapte. Mais c'est surtout, je crois, le cœur, quoi, le fait d'avoir un sens à sa vie. Et je crois qu'on peut avoir une perte de sens même quand on a la santé. Et on peut avoir du sens à sa vie même quand on n'a pas la santé. Donc je trouve ça beau que Jésus... Et la simplicité de demander « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Moi, si le Seigneur il me demande ça, à l'époque, je lui disais, quand j'étais nouvelle convertie, « Je voudrais que tu changes mon cœur, que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. » Parce que c'est une parole du prophète Ézéchiel qui m'a beaucoup touchée. Et vous voyez, alors que tout le monde disait « Ouais, tu seras guérie et tout », mais je lui dis « Mais pourquoi faire ? » Enfin, à quoi ça sert d'avoir des jambes normes ? Enfin, voilà, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est que je puisse accueillir la vie pleinement et la transmettre. Ça, c'est un autre problème. C'est bien d'accueillir la vie, mais on a besoin de la transmettre.
Ce mystère de la relation à Jésus, il vous habite et vous le partagez aux autres. Alors, vous avez parlé de votre conversion. Ça s'est passé comment, si vous voulez nous dire en 2 mots?
Oui, alors ça s'est passé en plusieurs étapes. Moi, j'ai beaucoup cherché, j'avais un... questionnement dans ma tête qui était « Où est la vérité ?» Un peu comme Ponce Pilate d'ailleurs. « Qu'est-ce que la vérité ?» Et j'avais des amis musulmans depuis petite pour qui Dieu est une évidence. Donc pour moi, Dieu était une évidence. Je n'ai jamais vécu d'athéisme où Dieu n'existait pas. Simplement, je ne savais pas qui avait raison entre les musulmans, les machins, les trucs. Donc moi, je l'appelais mon Dieu, comme ça c'était facile. Mais j'avais quand même besoin... de me poser quelque part, je ne savais pas où me poser. Donc j'ai commencé à chercher dans les Écritures. Alors j'ai commencé par lire le Coran un petit peu. J'ai lu les 2 premières sourates.
Dieu miséricordieux, la Fatiha, ouais. Celui qui nous conduit par le juste chemin. Nous l'écoutions la semaine dernière,
ouais,
avec quelqu'un qui nous parlait de la journée internationale pour vivre ensemble en paix, qui connaît bien le Cheikh Ben Tounes. Ouais. Et puis du Coran, de Dieu miséricordieux, vous êtes passé à Jésus.
Ouais,
le
parce
fils
que
de
y a
Dieu.
Quelque chose, voilà, j'ai lu la vache et la famille, et puis il y a quelque chose dans mon cœur qui me disait non, c'est pas ça. Et vous voyez, dans cette quête de vérité, où est la vérité, il y avait quelque chose là qui me semblait, c'était pas ça. Donc je suis allée regarder dans l'Ancien Testament, que j'ai mal compris, hein, parce que si on n'est pas. Voilà, donc,
la première alliance avec nos amis des Juifs.
Avec toutes ces guerres, quand on ne connaît pas, on ne sait pas tout ça. Hein. On ne voit que des guerres, des combats, tout ça. Donc je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Et puis, quand je suis arrivée au Nouveau Testament, là, j'ai rencontré Jésus et j'ai dit, mais c'est marrant, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et donc, ça m'embêtait parce que je n'avais pas envie d'être catho. Enfin, ce n'était pas hyper attirant le monde catho.
Vous parlez dans une radio œcuménique, dans une radio catholique, mais c'est votre parcours. Et
voilà.
Il y avait des choses qui vous hérissaient,
complètement.
Peut-être dans le dogme ou dans l'institution.
Non, pas du tout. Vous savez, j'en étais pas là. Hein. Mais moi, c'était surtout, j'avais 20 ans et des poussières. J'avais envie de sortir, faire la fête. Donc moi, le classique pénible, c'était pas mon truc, quoi. J'étais jeune. Et puis après, mais par contre, j'avais un feu, une soif d'amour très grande. Donc là, je commençais à fréquenter ces fameux cathos. Et puis surtout, la Bible, la parole de Dieu. Et là, j'ai compris que c'était une pédagogie. Et que l'ancienne alliance est une pédagogie. Et qu'elle est belle. et que notre Bible, est, enfin la parole de Dieu est belle, grande, nourrissante, fortifiante, et que l'Église, avec un grand E, y compris institutionnelle, est belle. Mais voilà, ça m'a mis, ça m'a pas mis beaucoup de temps quand même, hein, mais je le découvre de plus en plus encore aujourd'hui.
Et vous avez senti cette flamme dans votre cœur, et c'est pour ça que vous nous avez apporté ce beau chant de Mère Teresa qui s'adresse à tous les pauvres, à toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie, ce désir de tous les cœurs.
C'est ça. Je me suis fait confirmer juste après avoir choisi Jésus. Et donc, je crois qu'en demandant la confirmation en 2014, je pense que j'ai été donc confirmée dans cette vocation à faire Église. Vous voyez, c'est pas juste ma relation personnelle avec mon petit Jésus, moi et Jésus, et nous deux ensemble, tout va bien, et les autres, ils ont rien compris. Non, c'est mon petit Jésus, moi et les autres. Pourquoi ? Parce que c'est nous ensemble, nous formons son corps, qui s'appelle l'Église. Voilà.
Alors, ça nous entraîne directement dans cette musique, dans le cœur de toute créature. Allume la flamme de ton amour.
Amen.
Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Carolina Letao, vous êtes de la fraternité des personnes malades et handicapées. Et vous avez bien dit, vous m'avez corrigé, de la fraternité catholique, parce que Jésus, pour vous, est important. C'est pour ça aussi que vous nous avez choisi ce beau témoignage, le chant de Sœur Teresa, qui s'adresse aux malades et aux handicapés. Et avec nous, il y a aussi Arnaud, qui fait partie de cette fraternité et à qui je laisserai la parole à la fin de notre dialogue et qui reviendra dans le courant de la saison 4, au début de l'année universitaire. Nous avons ce message, hein, d'allumer la flamme de l'amour de Jésus et de le transmettre aux autres. Vous êtes dans cette vocation d'aimer.
C'est ça. Donc, en fait, ce chant, c'est tiré d'une parole que Jésus à donner à Mère Teresa. Il lui demande d'être... il l'envoie, elle, en son nom, au nom de Jésus, vers les pauvres et les malades, pour allumer la flamme de son amour à lui. Et personnellement, j'avoue que c'est un appel que je ressens aussi. C'est de transmettre, d'allumer le feu. J'ai beaucoup de mal avec la tiédeur. Vous savez, dans l'Apocalypse, on dit que Dieu vomit les tièdes. Je suis un peu comme ça. Je voudrais qu'on brûle d'amour, de zèle pour le Seigneur, parce que je crois qu'il en vaut la peine, parce qu'il a un regard qui transforme, et la souffrance que nous éprouvons souvent, nous, personnes en situation de handicap, ainsi que les valides, c'est juste que les valides, ils ont plus de mal à l'admettre, c'est la qualité de regard qui est posée sur nous, et notamment avec cette histoire de pauvre. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, nous sommes différents, physiquement. Et donc, parce que nous sommes différents, alors on nous qualifie de pauvres.
Ou parfois on fait peur.
Or, en fait, on est différents. Après, on est même pécheurs, figurez-vous. Et donc, on a même besoin d'être réconciliés, donc de recevoir du sacrement du pardon. Et même ça, parfois, c'est difficile. Les prêtres, ils nous écoutent à peine pendant les confessions parce que, oui, mais au point, enfin, vu ce que vous vivez, c'est bon, quoi. Alors moi, je suis obligée de forcer le trait, hein. Il y a des moments pour leur faire comprendre que je suis une vraie pauvre fille, comme eux, et que j'ai besoin d'être pardonnée de Jésus. Donc, à ce titre, oui, nous sommes pauvres, mais pas au regard de notre handicap.
Parce que souvent, on dit, mais... Oh ben, y en a qui sont pauvres financièrement, et puis il y en a qui ont un soutien de la part de la société ou de la part de leur famille, et puis il y a une pauvreté qui est affective. Donc c'est tout ça que vous méditez, et dans les échanges avec les autres, que vous essayez de, et que vous réussissez, bien sûr, à transformer.
Vous voyez, dans la lettre du pape François que je vous ai transmise, à la fin, il dit... il a besoin urgemment de notre prière, car comme dirait Thérèse d'Avila,
dans les moments difficiles, nous avons besoin des amis forts de Dieu pour soutenir les faibles.
François nous dit ça à nous, personnes en situation de handicap. Alors je me dis, en fait, voilà, là, il met notre pauvreté au service de l'Église, en fait, au sens où, on est peut-être si on développe une amitié avec Jésus, notre réelle richesse, elle est là, en fait. Et puis après, il y a des gens qui sont vraiment intelligents, il y a des gens qui sont vraiment... D'abord, il y a des personnes en situation de handicap qui sont financièrement à l'aise. Et puis ça, c'est à titre personnel, je vous le dis, je ne trouve pas qu'on soit pauvre en France quand on est handicapé. Parce qu'en fait, on touche quand même plus que des personnes au RSA. On n'est pas à plaindre financièrement. Là où c'est compliqué, c'est pour se faire financer des aides pour du matériel et des aides humaines, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, il y a du travail.
Parce que vous aussi, il fut un temps, vous aviez une profession, et puis vous avez cherché des petits métiers, parce que les entreprises ont l'obligation de recruter un certain nombre de personnes, sinon elles préfèrent parfois payer davantage des amendes que de prendre des personnes, parce qu'elles pensent que ça leur posera toute une série de problèmes. Puis vous avez dit, mais... quand on m'a fait faire des conneries, eh bien, je préfère que mon métier, ça soit justement de cette mission dans l'Église. Et vous me dites aussi tout ce mépris quand on répond au téléphone par des injures, alors que ce sont des personnes qui sont payées, malvoyantes ou autres, à faire du, comme on dit, du mailing, n'est-ce pas ?
Du phoning. En fait... fut un temps où on voulait bien nous... Enfin, en fait, il y avait beaucoup de travail pour vendre ce que j'appelle des conneries, c'est-à-dire des abonnements pour avoir des voitures en miniature, avec le petit magazine qui va bien. La première, elle est à 3 euros, et après, c'est 20 euros par mois. Je dis que c'est des conneries parce que ce n'est pas des choses essentielles, mais après, on a le droit de collectionner. Hein, y a pas
mais
de
après,
chose.
Ça endette un certain nombre de personnes moi, qui se laissent faire.
Voilà, j'ai eu des gens qui me disaient « Mais madame, je suis en procédure de surendettement. » Alors moi, j'étais juriste à l'époque. J'étais en droit, je faisais des études de droit. Donc je savais parfaitement ce que c'était que la procédure de surendettement. Et il fallait que je fasse ma vente pour avoir mes objectifs. Je n'ai pas du tout la fibre commerciale. Ça, ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas. J'ai essayé, je ne l'ai pas.
Oui, mais vous vendez de l'espoir.
Mais peu importe.
C'est gratuit d'ailleurs, c'est gratuit, c'est votre sourire. Mais le pape François a dit, dans ces temps de pandémie, on a vu clairement que nous sommes tous vulnérables.
Voilà.
Nous sommes dans la même barque. Et c'est ce qu'il avait dit aussi avec Laudato aussi. Nous habitons la même terre.
Alors après, bon voilà, je me donne autrement. Mais il y a des gens qui sont bons en commerce et je ne les méprise pas, hein, parce que je crois qu'il en faut aussi. Simplement, ce n'est pas ma vocation. Et donc voilà, une chose en entraînant une autre. Parce qu'avoir l'obligation de recruter des personnes handicapées, d'accord, mais comme vous avez dit, là, la radio, elle n'est pas accessible. Et il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour qu'elle soit accessible. Les entreprises, c'est pareil, en fait.
Oui,
elles
mais
ont les mêmes difficultés.
Quand j'ai vu comment Alain vous a porté avec Olivier et Nadège, j'ai pensé...
Tous les matins faire ça.
Ah oui, Jésus, quand il a la personne qui est sur les toits, le paralytique, et puis ils ont ouvert le toit, donc l'inventivité, la charité est technicienne avec vous.
Oui, mais pas tous les jours.
Pas,
tous
les
pas
jours.
Pour le travail, je ne pense pas.
C'est ça.
Et puis après, il faut les compétences. C'est-à-dire, moi, je suis bien mignonne, mais si je n'ai pas les compétences, voilà. Et puis, il y a aussi qu'on n'est tellement pas sûr de notre... Nous, personnes handicapées, je crois qu'on a un problème à se valoriser. Et ça, c'est un travail collectif. On nous a tellement dit qu'on n'était pas rentable, même moi, hein, que j'ai du mal à croire que je puisse l'être.
Mais l'Église vous envoie, puisque nous préparons, enfin vous préparez avec Sébastien ou avec Alain et les autres, la diaconie 2023. 10 ans après cette diaconie de 2013, où il y a un gros effort plutôt... Il y a l'aide qui est demandée aux personnes malades, handicapées, de soutenir cet effort de l'Église dans sa mission.
Ouais, alors...
Vous préparez cela dès maintenant.
C'est ça. Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, notre responsable PPH, oui. Arnaud aussi, je crois. Et d'autres aussi. Et puis, nous, on va collaborer à une veillée dans le cadre du rassemblement des familles. Qui est demandée par le pape François, qui se fait habituellement à Rome, mais cette année, elle est délocalisée dans les diocèses qui veulent bien l'organiser, et à Toulouse, ça sera le cas. Et donc, nous allons animer, en collaboration avec la communion de l'Olivier,
une veillée. Le 27 juin, n'est-ce pas ?
Le 24.
Le 24 juin.
À Saint-Jérôme, à 20h15.
C'est
donc,
ça.
Donc oui, l'Église nous envoie. Mais c'est du bénévolat, et c'est très bien. Mais pour en revenir au travail, voilà, c'est... Moi, en tout cas, je me suis dit que comme je n'ai pas de problème... Enfin, l'État subvient à mes besoins, finalement. Donc, je peux me donner gratuitement. Mais n'empêche que pour le travail, ce n'est pas évident aujourd'hui.
Alors, on va laisser la parole à Arnaud, qui va nous dire l'adresse de la fraternité et comment répondre et écrire. 28 rue de l'Aude et son téléphone.
L'adresse, c'est 28 rue de l'Aude et le téléphone, c'est 06 43 42 19 33. Je suis très satisfait d'avoir entendu le témoignage de Carolina et vous aurez le plaisir de me retrouver en septembre. Et je pense que je m'exprimerai sur un message d'espérance, comme l'a fait Carolina, plus ou moins.
Sur Merci. Cette foi et cette conviction qui vous habite. Je voudrais aussi évoquer qu'il y a l'association des rencontres chrétiennes des familles et d'amis de personnes souffrant, parce que dans certaines familles, lorsque l'un des membres, qu'il soit ascendant ou collatéral ou descendant, avec José Raison, le relais Lumière Espérance. Nous avions entendu, nous avions écouté José et le lien de relais Lumière Espérance. Donc, nous avons la chance d'avoir des lettres d'information. C'est un soutien qui est important. Et puis surtout, nous comptons sur la prière de tout le monde. Et on peut terminer sans doute avec le psaume 97. Tous les peuples, battez des mains. Oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous porte dans son cœur et il allume cette flamme de l'amour et de l'espérance. Merci beaucoup. Merci à Arnaud et à Carolina. Et bientôt, eh bien, nous avons rendez-vous avec Nadège qui est là, pas seulement pour vous porter, mais aussi pour vous encourager dans votre travail. Merci à Christophe pour la technique.